France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Après l'annonce surprise hier soir par Donald Trump d'un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran, la confusion règne à nouveau ce matin. Chacun des deux ennemis s'accuse mutuellement d'avoir mené des frappes. On fera le point dès le début de ce journal et puis on se rendra aux États-Unis pour tenter de savoir ce qui a bien pu conduire le locataire de la Maison Blanche à s'auto-congratuler peut-être un peu rapidement. Au terme de 4 mois d'une concertation impulsée par François Bayrou, les partenaires sociaux du conclave sur les retraites n'ont pas réussi hier soir à surmonter leurs divergences. Le Premier ministre les a invités malgré tout ce matin à une réunion de la dernière chance. Sur quel point syndicats et patronats peuvent-ils encore ou non s'accorder? On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Léonard Guillemot, conseiller confédéral à la CFTC. À suivre également, les groupes du CAC 40 qui distribuent une part toujours plus importante de leurs profits à leurs actionnaires. Enfin, on détaillera cette étude publiée ce matin qui vient mettre en exergue l'érosion persistante de la confiance entre citoyens et forces de l'ordre. De manière aussi fulgurante et inattendue qu'il avait ordonné un déluge de feu samedi dernier, Donald Trump avait donc annoncé hier soir dans une déclaration triomphale l'arrêt complet et total des hostilités entre Israël et l'Iran. Et de fait, à la stupéfaction générale, le calme était aussitôt ou presque revenu dans la région. D'un côté, le gouvernement israélien disait avoir accepté la proposition américaine. De l'autre, le régime iranien assurait qu'il n'avait pas l'intention de poursuivre ses frappes si l'État hébreu arrêtait son agression. Sauf que quelques heures plus tard, à peine déjà, les deux ennemis s'accusaient mutuellement de violer le dit cessez-le-feu. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
L'armée israélienne a affirmé avoir détecté des tirs de missiles iraniens en direction de son territoire. De son côté, la République islamique dément. Difficile de savoir qui dit vrai. Malgré tout, Étienne, est-ce que cela signifie que ce cessez-le-feu est d'ores et déjà menacé?
Alors, c'est vrai qu'on est dans un moment de tension et d'incertitude. Le cessez-le-feu est sans doute fragilisé. Le chef d'état-major israélien estime qu'il a été rompu. Le ministre de la Défense d'Israël a demandé à son armée de répondre par des frappes puissantes, mais ça n'est pas forcément le signe d'un nouvel embrasement. Les Iraniens étaient à la recherche d'une porte de sortie. Cette nuit, ils ont eu une communication contradictoire. Officiellement, ils n'avaient pas signé l'accord de Donald Trump, mais le ministre des Affaires étrangères avait exprimé publiquement un infléchissement. Un haut représentant iranien avait confirmé à l'agence Reuters que l'accord avait été accepté et vers 11h ce matin, le Conseil de sécurité nationale iranien s'est félicité d'avoir forcé Israël à cesser unilatéralement la guerre. L'Iran semble vouloir sauver la face. Le régime cherche à sortir de cette guerre sans le formuler pour ne pas paraître capitulé face à la puissance de feu d'Israël et des États-Unis. Le régime a d'ailleurs utilisé la stratégie de la posture hier dans sa riposte contre la base américaine au Qatar. Le régime a lancé 14 missiles, mais avant, il a prévenu ses adversaires qu'il allait frapper pour minimiser les dégâts et éviter l'embrasement, comme il l'avait fait avec Israël en avril 2024 lors de la toute première confrontation directe. Chacun peut donc s'adresser aujourd'hui à son opinion publique. Israël dit qu'elle a atteint toutes ses cibles. L'Iran reste dans une posture guerrière et l'Amérique obtient la fin du conflit. Chacun construit donc son narratif autour de cet accord qui reste pour l'instant fragile puisque chaque camp s'accuse mutuellement et ça n'est pas forcément un très bon signe pour la suite.
Merci Étienne Monin. Alors même dans un monde où a priori seule la loi du plus fort prévaut, quitte d'ailleurs parfois à brouiller quelque peu les pistes et entrer en guerre pour obtenir la paix à l'évidence, le risque existe toujours que la violence n'engendre jamais rien d'autre que de la violence, ou dit autrement, en annonçant hier soir la fin officielle de la guerre des 12 jours, ainsi qu'il l'a lui-même baptisé, Donald Trump s'est peut-être auto-congratulé un peu vite pour son rôle dans la résolution supposée de ce conflit. Loïc Loury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de New York. Alors, on connaît le talent du locataire de la Maison Blanche pour les déclarations déconcertantes et il n'est pas rare non plus qu'il cherche à dicter le récit en attendant que la réalité s'y conforme. Pour autant, Donald Trump avait-il de bonnes raisons, Loïc, de se montrer optimiste?
Alors non, sans doute pas aussi optimiste, hein, puisque Donald Trump hier soir allait tout de même jusqu'à annoncer la paix pour demain. Il est alors 18h à Washington. Le président assure qu'Israël et l'Iran sont d'accord pour un cessez-le-feu, d'abord respecté par Téhéran, puis par Tel Aviv. Le plan semble relativement clair sur le papier, mais dans les faits, beaucoup moins, hein, d'autant plus que J.D. Vance, le vice-président qui vient d'arriver sur Fox News, ne semble pas du tout au courant. Il y a aussi les déclarations contradictoires de l'Iran. Pas d'accord, dit-on d'abord à Téhéran, avant d'assurer qu'une trêve a bien été imposée à l'ennemi. Et tout cela alors que les échanges de tirs de missiles se poursuivent. Le président, ce matin, annonce malgré tout que la trêve est en cours. Les deux pays s'accusent de la violer. Bref, si cessez-le-feu il y a, tout cela est au mieux très fragile et impossible de savoir ce que Donald Trump a réellement négocié. C'est la diplomatie 2.0 du milliardaire sur les réseaux sociaux et souvent, comme vous l'évoquiez, en forme de prophétie autoréalisatrice. Ça n'avait pas fonctionné pour l'Ukraine, pas certain que ça fonctionne pour le Moyen-Orient.
Merci Loïc Loury en direct de New York, et je précise que le Qatar exhorte ce matin les États-Unis et l'Iran à reprendre les discussions sur le nucléaire.
10 ans de prison ont été requis en appel ce matin contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal.
Mais aussi 1 million de dinars d'amende, soit exactement le double de sa condamnation en première instance. Le procureur général de la Cour d'appel d'Alger rendra sa décision mardi prochain.
Midi passé de 35 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Le miracle n'aura pas eu lieu. Hier soir, le conclave des retraites s'est finalement soldé par un échec. Les partenaires sociaux, du moins ceux qui n'avaient pas déjà tourné les talons, s'étaient pourtant retrouvés chaque semaine, 4 mois durant, pour faire revivre la méthode du fameux dialogue social promu par François Bayrou. En vain, syndicats et patronats se renvoyant chacun la responsabilité de cette impasse. Les discussions, notamment, à choper sur la prise en compte de la pénibilité du travail, mais aussi l'ouverture de droits impossibles le départ anticipé à la retraite, car pour le reste, il était d'ores et déjà acquis que l'âge légal du départ à la retraite ne bougerait pas. Au final, beaucoup d'énergie pour rien, donc de quoi fragiliser aussi un peu plus encore François Bayrou, désormais sous la menace d'une motion de censure. Alors est-ce parce qu'il craint justement pour son poste, ou bien, comme il le dit lui-même, parce qu'il ne veut pas se satisfaire de cet échec? Le Premier ministre avait choisi d'inviter ce matin les partenaires sociaux à le rejoindre à Matignon pour trouver, je cite, une voie de passage, deux rencontres séparées, l'une avec les syndicats et l'autre avec le patronat. Wafia Kenich, bonjour.
Bonjour Thomas.
Sur quoi le Premier ministre espère-t-il encore, Wafia, pouvoir faire bouger les lignes?
Oui, vous l'avez dit, les organisations syndicales sont en ce moment même à Matignon pour parler alors notamment de la pénibilité. Les syndicats tentent depuis le début du conclave de permettre aux salariés les plus abîmés par le travail de partir en retraite anticipée. C'est le cheval de bataille de la CFDT, premier syndicat de France. Sa secrétaire générale, Marie-Lise Léon, s'est dite d'accord pour avoir une explication de texte à Matignon, mais refuse le règlement de compte. On ne veut pas être en négociation avec le Premier ministre, a-t-elle dit ce matin. Pour la CFTC, la ligne rouge, c'est le refus par le patronat de permettre d'abaisser l'âge de la décote. Le syndicat voudrait que les salariés, qui ont eu par exemple des carrières hachées, puissent partir en retraite à 66 ans au lieu de 67, aujourd'hui, avec l'intégralité de leur pension de retraite. Autre point de crispation soulevé par Patrick Martin ce matin, le président du MEDEF a lui relevé que le dispositif carrière longue, qui permet de partir plus tôt que 64 ans, concerne selon lui trop de salariés. En gros, le patronat voulait le restreindre pour financer notamment des mesures en faveur des femmes ayant eu des enfants. Il y a là, a-t-il dit, une poche financière. Enfin, pour les organisations patronales, notamment la CPME, qui sera reçue ce soir à 20h à Matignon, l'idée d'augmenter les cotisations patronales, c'est non. Ces positions des uns et des autres sont connues depuis plusieurs mois, ce qui fait dire à Cyril Chabanier, patron de la CFTC, que la balle est dans le camp du Premier ministre. François Bayrou doit, selon lui, mettre la pression au patronat pour qu'il fasse des concessions. Sans quoi, les négociations d'hier comme celles d'aujourd'hui seront un échec pour les partenaires sociaux et pour le gouvernement.
Et pour continuer donc d'évoquer l'échec a priori de ces négociations, invité à présent de la rédaction, Léonard Guillaumeau, conseiller confédéral à la CFTC. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés pour vous interroger, Wafia Kenich. Ce matin, le président Emmanuel Macron encourage à aller au-delà des désaccords et à trouver, je cite, une solution pour la France. Est-ce encore possible, ou bien est-ce que vous considérez que les discussions n'ont que trop duré?
Pour nous, à la CFTC, pour nous, le conclave, il est derrière nous, il est terminé. Nous avons eu suffisamment de débats entre nous, mais bon, il y a un goût d'un peu d'amertume parce que nous n'étions pas très très loin d'un accord hier soir.
Et notamment, hein, vous le disiez hier soir, vos négociateurs le disaient, vous aviez accepté de mettre de côté l'idée, la question des 64 ans. Donc vous, les négociateurs disaient, on attendait du côté du patronat plus d'efforts. Et là, vous aviez l'impression qu'aucun effort n'avait été fait, c'est bien cela ?
Oui, tout à fait. Nous, on a toujours considéré dans la négociation que l'accord devait être équitable. On devait travailler pour que les trois acteurs du système contribuent équitablement, c'est-à-dire les actifs, les retraités et les employeurs. Et régulièrement, lors de ces négociations, on sentait bien que le patronat ne voulait pas faire de contribution. Et ça s'est accéléré sur ces deux dernières journées.
Parce qu'en fait, vous le disiez aussi, il y avait dans ce conclave quelque chose d'intéressant dans la méthode, avec un médiateur extérieur aux deux parties, mais en revanche, pas assez de pression mise sur le patronat, qui était plutôt d'accord avec la réforme Borne.
Eh bien oui, c'est-à-dire qu'on a eu d'énormes moyens pour cette négociation. Une équipe dédiée, des locaux, les administrations publiques nous donnaient les informations qu'on souhaitait. Plus de 100 études ont été données aux partenaires sociaux. On a été très loin dans les discussions. Mais encore une fois, pour négocier, il faut être deux. Et je pense que le patronat est entré dans cette négociation un petit peu à reculons et qu'il a freiné tout au long des débats jusqu'au dernier moment.
On a eu l'impression quand même que le ton changeait, notamment chez Patrick Martin ce matin, le patron du MEDEF. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un accord, une espèce de texte de compromis à minima sur la question des femmes, par exemple ?
Je pense que les travaux qui ont été réalisés ne peuvent pas être enterrés. Il y a énormément de choses qui ont été discutées. On a fait des rapprochements entre nous. On est allé très loin. Je pense que ce serait dommage de gâcher tout ce travail. Il y a quelque chose à faire. Mais maintenant, la balle est dans le camp du Premier ministre. Et c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il peut faire avec ce matériau où on voit très bien quelles sont les lignes de rapprochement et les lignes de désaccord et essayer de trouver une solution pour qu'enfin cette réforme Borne s'améliore et que les salariés et les retraités qui en subissent les conséquences puissent connaître une amélioration de leurs conditions.
Justement, j'aimerais bien qu'on aille plus précisément sur cette question des femmes, puisqu'il semblerait que c'est le sujet sur lequel vous avez eu le plus de facilité à vous entendre. Vous pouvez nous l'expliquer, cette amélioration ?
Oui, bien entendu. Alors, on a beaucoup travaillé pour les conditions des femmes. Tout le monde était vraiment engagé dans cette voie. Donc, on a travaillé pour faire en sorte que les femmes ayant des enfants puissent avoir un calcul de leur retraite, non pas sur les 25 meilleures années, mais pour celles qui auraient un enfant sur les 24 meilleures années et celles qui auraient deux enfants ou plus sur les 23 meilleures années. C'est pas rien, parce que ces femmes qui travaillent, qui élèvent leurs enfants, qui ont des temps partiels, parfois des trous dans la raquette dans leur carrière, pourraient calculer leur retraite sur ces années où elles ont eu la meilleure rémunération, et à l'arrivée, c'est plusieurs centaines d'euros de plus. Ensuite, on avait décidé également de pousser la majoration de durée d'assurance. C'est des trimestres qu'on vous donne quand vous avez un enfant qui vous permettent de partir plus tôt si vous avez une carrière longue. Et puis enfin, nous avions toujours cette surcote de 5% qui permettait d'améliorer la retraite des femmes qui avaient des enfants. Donc oui, on est allé très loin grâce à nos travaux. On a un dispositif qui peut améliorer la retraite des femmes.
Merci beaucoup, merci infiniment.
Merci Léonard Guimau, donc conseil confédéral à la CFTC d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Wafia Kenich.
François Bayrou, toujours lui, espérait l'émergence in extremis d'un autre accord dans la journée, là aussi en vain.
7 députés autant de sénateurs étaient réunis à huis clos ce matin pour tenter d'aligner leur position sur une proposition de loi d'origine macroniste, la réforme du mode de scrutin municipal à Paris, Lyon et Marseille, censée rapprocher les électeurs du choix de leur maire. Sauf que la commission mixte paritaire a échoué à se mettre d'accord. Il faut dire que derrière cette formule simple, un électeur égale une voix, se cachait en réalité d'importants enjeux électoraux et tout autant de divergences de vues quand les socialistes et les sénateurs LR y sont quasi unanimement opposés. À l'inverse, les députés LR, mais aussi les élus du parti présidentiel, le MoDem du Premier ministre, le Rassemblement National et la France Insoumise y sont, eux, favorables. À présent, le texte doit repasser par les deux chambres du Parlement avant d'aboutir, si toutefois l'agenda parlementaire le permet. mai. Autre illustration du cheminement décidément chaotique des textes à l'Assemblée comme des divisions de la coalition gouvernementale. Les députés sont appelés à se prononcer aujourd'hui sur la trajectoire énergétique de la France à l'horizon 2035. Problème face aux bancs dégarnis de la gauche et des groupes macronistes. Les députés, les Républicains et Rassemblement National ont réussi à faire approuver la semaine dernière à quelques voix près seulement un moratoire sur les investissements dans le solaire et l'éolien, de sorte que les députés du camp présidentiel devraient vraisemblablement rejeter la proposition de loi.
Encore une journée, une année record pour le versement de dividendes.
Le cabinet EY a compulsé les résultats des entreprises du CAC 40 et il s'avère que le taux de distribution aux actionnaires atteint en effet de nouveaux sommets en 2024. Les plus grandes entreprises françaises qui composent cet indice donc leur auront reversé 54% de leurs résultats. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Comment s'explique cette hausse continue de la part versée aux actionnaires donc depuis déjà quelques années?
Alors en 2024, elle s'explique surtout par la très forte hausse des dividendes versés par les banques, assurances et foncières. Profitant à plein de la politique de réduction des taux menée par la Banque Centrale Européenne, ce secteur a vu ses bénéfices progresser de 22% en 2024 et verser des dividendes en conséquence, ce qui tire la moyenne de l'ensemble du CAC 40 vers le haut. Mais sur les 10 dernières années, quand on regarde aussi là en moyenne, le versement des dividendes, c'était 47% du résultat. Là, on est donc effectivement à un niveau record et depuis 2021, la progression est constante. Cependant, en 2024, tous les secteurs ne s'en sortent pas aussi bien que le secteur financier. Dans l'industrie et le BTP, les résultats ont chuté d'un tiers. L'énergie, moins 14%. Idem pour le luxe et les cosmétiques. Alors la marge des entreprises du CAC 40 est aussi en légère baisse comparée à l'an dernier, mais cela reste une marge à deux chiffres en moyenne, proche de 12%, alors qu'il y a 10 ans, la moyenne, c'était 9%. Autrement dit, ça va moins bien qu'en 2022 et 2023, qui furent des années exceptionnellement profitable, mais cela va quand même toujours mieux que la décennie précédente. EY, il explique par la maîtrise des coûts rigoureuse de ses entreprises et leur moindre dépendance à l'économie française, qui représente dorénavant moins d'un quart de leur chiffre d'affaires. Le choc de la dissolution les a donc peu affectés, tout comme l'atonie de la croissance européenne, l'Europe ne représentant dorénavant que 50% de leurs ventes contre 70% il y a 20 ans.
Merci Marie Viennot.
L'enquête consacrée à la déontologie des forces de sécurité publiée ce matin vient confirmer une nouvelle fois l'érosion de la confiance entre l'institution policière et la population.
L'étude confiée par la Défenseure des droits à l'Institut de sondage Ipsos a été réalisée entre octobre 2024 et janvier 2025 auprès d'un échantillon représentatif de quelques 5000 personnes âgées de 18 à 79 ans et résidant en France métropolitaine. Et elle vient notamment mettre en exergue, Florence Turme, la persistance de discrimination de tous ordres, non seulement lors des dépôts de plaintes, mais aussi à l'occasion de contrôles d'identité toujours plus étendus.
D'abord un chiffre, les contrôles d'identité ont augmenté de 10% entre 2016 et 2024. Un quart de la population française a été contrôlée par la police ou la gendarmerie au moins une fois au cours des 5 dernières années. Mais ce risque de contrôle apparaît 4 fois plus élevé pour les jeunes hommes noirs, arabes ou maghrébins et ils ont, précise le rapport, 12 fois plus de risques d'avoir connu un contrôle poussé, autrement dit accompagné de fouilles ou de palpations. Autre élément significatif relaté par les personnes interrogées, dans plus de la moitié des cas, les forces de sécurité n'ont pas explicité le motif du contrôle. La nouvelle étude s'est également intéressée aux dépôts de plaintes et aux mains courantes, ces faits que tout citoyen peut être amené à rapporter dans un commissariat ou une gendarmerie. Avec ce premier constat, une personne sur cinq déclare que les policiers ou les gendarmes ont refusé de prendre leur déposition. Parmi elles, 37% sont en situation de handicap, 33% portent un signe religieux, 30% sont au chômage et 28% perçus comme noirs, arabes ou maghrébines. Or, que ce soit en termes de contrôle ou de dépôt de plainte, insiste la Défenseure des droits, les expériences vécues structurent directement la perception de l'institution policière. Quand les droits sont respectés, c'est le cas par exemple quand les contrôles d'identité sont expliqués, la confiance se maintient ou se renforce. Lorsque les droits sont remise en cause, elle s'effondre. Claire Hédon estime qu'il est dans l'intérêt de tous de restaurer la confiance. Cela passe, selon elle, par une meilleure formation, un meilleur encadrement et des pratiques conformes à l'éthique républicaine.
La Cour administrative d'appel de Nantes a condamné ce matin l'État français à indemniser les proches d'un jogger décédé en 2016 dans une vasière envahie d'algues vertes. C'était à l'embouchure du Gouessant dans les Côtes-d'Armor. La Cour pointe les carences de la puissance publique dans la mise en œuvre de la réglementation destinée à protéger les eaux de toute pollution agricole à l'origine de la prolifération donc de ces algues vertes en Bretagne. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi estival sur l'ensemble du territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 20 et 38 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Alix Forgeau. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiffen pour le prochain journal de la rédaction.